Cher enfant, dit Rastignac à Malvina d'un ton bonhomme et paternel quand ils furent seuls. Souvenez-vous qu'un pauvre garçon, lourd de sommeil, a pris du thé pour rester réveillé jusqu'à 2 heures du matin, afin de pouvoir vous dire solennellement: mariez-vous. Ne faites pas la difficile. Ne vous occupez pas de vos sentiments. Ne pensez pas à l'ignoble calcul des hommes qui ont un pied ici, un pied chez les Matifat. Ne réfléchissez à rien. Mariez-vous. Pour une fille, se marier, c'est s'imposer à un homme qui prend l'engagement de la faire vivre dans une position plus ou moins heureuse, mais où la question matérielle est assurée. Je connais le monde. Jeunes filles, mamans et grand-mères sont toutes hypocrites, en démanchant sur le sentiment quand il s'agit de mariage. Aucun ne pense à autre chose qu'à un bel état. Quand sa fille est bien mariée, une mère dit qu'elle a fait une excellente affaire. Et Rastignac lui développa sa théorie sur le mariage, qui, selon lui, est une société de commerce instituée pour supporter la vie. Je ne vous demande point votre secret, dit-il en terminant à Malvina. Je le sais. Les hommes se disent tout entre eux, comme vous autres quand vous sortez après le dîner. Eh bien, voici mon dernier mot. Mariez-vous. Si vous ne vous mariez pas, souvenez-vous que je vous ai supplié ici, ce soir, de vous marier. Rastignac parlait avec un certain accent qui commandait non pas l'attention, mais la réflexion. Son insistance était de nature à surprendre. Malvina fut alors si bien frappée au vif de l'intelligence, là où Rastignac avait voulu l'atteindre, qu'elle y songeait encore le lendemain et cherchait inutilement la cause de cet avis. Je ne vois dans toutes ces toupies que tu lances rien qui ressemble à l'origine de la fortune de Rastignac, et tu nous prends pour des Matifats multipliés par 6 bouteilles de vin de champagne, s'écria Couture. Nous y sommes, s'écria Bixiou. Vous avez suivi le cours de tous les petits ruisseaux qui ont fait les 40 000 livres de rente auxquelles tant de gens portent envie. Rastignac tenait alors entre ses mains le fil de toutes ses existences. Desroches, les Matifat, Beaudenord, les Daldrigère, d'Aiglemont? Et 200 autres, dit Bixiou. Voyons, comment? S'écria Finot. Je sais bien des choses et je n'entrevois pas le mot de cette énigme. Blondet vous a dit en gros les deux premières liquidations de Nucingen. Voici la troisième en détail, reprit Bixiou. Dès la paix de 1815, Nucingen avait compris ce que nous ne comprenons qu'aujourd'hui, que l'argent n'est une puissance que quand il est en quantité disproportionnée. Il jalousait secrètement les frères Rothschild. Il possédait 5 millions, il en voulait 10. Avec 10 millions, il savait pouvoir en gagner 30, et n'en aurait eu que 15 avec 5. Il avait donc résolu d'opérer une troisième liquidation. Ce grand homme songeait alors à payer ses créanciers avec des valeurs fictives, en gardant leur argent. Sur la place, une conception de ce genre ne se présente pas sous une expression si mathématique. Une pareille liquidation consiste à donner un petit pâté pour un louis d'or à de grands enfants qui, comme les petits-enfants d'autrefois, préfèrent le pâté à la pièce, sans savoir qu'avec la pièce, ils peuvent avoir 200 pâtés. Qu'est-ce que tu dis donc là, Bixiou? S'écria Couture. Mais rien n'est plus loyal. Il ne se passe pas de semaine aujourd'hui que l'on ne présente des pâtés au public en lui demandant un louis. Mais le public est-il forcé de donner son argent? N'a-t-il pas le droit de s'éclairer? Vous l'aimeriez mieux contraint d'être actionnaire? Dit Blondet. Non, dit Finot. Où serait le talent? C'est bien fort pour Finot, dit Bixiou. Qui lui a donné ce mot-là? Demanda Couture. Enfin, reprit Bixiou, Nucingen avait eu deux fois le bonheur de donner, sans le vouloir, un pâté qui s'était trouvé valoir plus qu'il n'avait reçu. Ce malheureux bonheur lui causait des remords. De pareils bonheurs finissent par tuer un homme. Il attendait depuis 10 ans l'occasion de ne plus se tromper, de créer des valeurs qui auraient l'air de valoir quelque chose et qui... Mais, dit Couture, en expliquant ainsi la banque, aucun commerce n'est possible. Plus d'un loyal banquier a persuadé, sous l'approbation d'un loyal gouvernement, au plus fin boursier, de prendre des fonds qui devaient, dans un temps donné, se trouver dépréciés. Vous avez vu mieux que cela? N'a-t-on pas émis, toujours avec l'aveu, avec l'appui des gouvernements, des valeurs pour payer les intérêts de certains fonds, afin d'en maintenir le cours et pouvoir s'en défaire? Ces opérations ont plus ou moins d'analogie avec la liquidation à la Nucingen. En petit, dit Blondet, l'affaire peut paraître singulière, mais en grand, c'est de la haute finance. Il y a des actes arbitraires qui sont criminels d'individu à individu, lesquels arrivent à rien quand ils sont étendus à une multitude quelconque, comme une goutte d'acide prussique devient innocente dans un baquet d'eau. Vous tuez un homme, on vous guillotine. Mais avec une conviction gouvernementale quelconque, vous tuez 500 hommes, on respecte le crime politique. Vous prenez 5000 francs dans mon secrétaire, vous allez au bagne. Mais avec le piment d'un gain à faire, habilement mis dans la gueule de 1000 boursiers, vous les forcez à prendre les rentes de je ne sais quelle république ou monarchie en faillite, émise, comme dit Couture, pour payer les intérêts de ces mêmes rentes. Personne ne peut se plaindre. Voilà les vrais principes de l'âge d'or où nous vivons.